très bien.
Parce que bon, j'ai rien d'intéressant à dire.
Pour arriver à la décroissance,
on but de l'alcool et fumer du cannabis.
Tout avait commencé dans le calme.
Soupçonné d'avoir reçu des pots de vin, toujours au Proche-Orient.
Pas de moyen pour répliquer.
Eux, ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
Un fasciste, la gangrène,
l'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède? Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
D'afficher la poubelle.
Hola, hola à tous et à toutes. Nous sommes le jeudi, combien nous sommes, Laurent? Le jeudi.
Le 19-7.
Ouais, parce que le 19 est une date que nous savons que vous avez tous et tous inscrites dans vos calendriers. Bienvenue donc pour ce Canu Info de ce jeudi 12 janvier 2023. Comme vous l'entendez, je vais parler doucement et peut-être pas très longtemps. Ma voix est en perdue en attente du 19 janvier 2023. Laurent, de quoi allons-nous parler ce soir, s'il te plaît ?
Je n'ai aucune espèce d'idée, mais je pense que tu vas faire une petite intro sur la casse sociale au sujet des retraites. Après, on parlera du Royaume-Uni et de quelques grèves là-bas. On parlera du Haut-Karabakh et de l'Arménie, du Pérou. On parlera un peu énergie-environnement. On parlera peut-être d'extrême droite et peut-être d'autres choses d'ici 20h, la fin de ce Canu Info du jeudi. Donc, c'est toi qui ouvre.
Oui, alors donc, vous avez bien compris que nous avons rendez-vous la semaine prochaine, le jeudi 19 janvier, pour lutter contre cette nouvelle réforme des retraites qui nous concerne, hein, quand même, parce qu'à un moment, on travaille, on cotise et on s'arrête. Enfin, en tout cas, nous, on souhaite s'arrêter, et surtout s'arrêter assez tôt quand même. Hein. Bon, là, on nous prépare donc quelque chose d'assez brutal, hein, 64 ans, c'est-à-dire 2 ans de plus, à taux plein, hein, pour partir. Mais ça, Loïc, tu as le droit, mon ami, hein, de partir à 64 ans avec une décote qui est quand même assez importante, hein, il faut le savoir. Ou si vraiment t'es dans la cacade, tu peux partir à 67 ans. Imagine, 67 ans. Mais ça voudra pas dire pour autant que tu auras ton taux plein. Hein, c'est juste que tu auras la possibilité de partir. Et puis, tu peux même aller continuer à 68 ans pour obtenir tous tes trimestres. Je vous rappelle qu'il y a eu plusieurs réformes, hein, depuis la Balladur. En 93, et donc chaque gouvernement tente de marquer l'histoire avec une nouvelle réforme en nous expliquant quand même dans la majorité des cas qu'il faut travailler plus longtemps et avec plus de cotisations, plus de trimestres. Alors, ce qu'il faut se souvenir aussi, c'est que à chaque fois, ces réformes, elles impactent des générations les unes après les autres, hein, donc selon votre âge aujourd'hui, tout le monde n'est pas touché de la même manière, hein, mais globalement, vous avez donc 172 trimestres à obtenir. Peut-être que vous avez fait joujou, comme Laurent et moi-même, sur le site info-retraite. A priori, beaucoup de gens ont fait joujou, puisque le site avait connecté. Il ne fonctionnait plus. Il y avait trop de connexions. Mais c'est vrai que d'un seul coup, ces réformes, elles nous permettent quand même de nous poser la question. Alors évidemment, si tu as 20 ans et que tu m'écoutes, je pense que tu t'intéresses pas trop. À ton nombre de trimestres, par contre, tu vas t'intéresser à ton avenir, à savoir si un jour tu auras une retraite. Mais en tout cas, ça nous permet quand même d'aller vérifier un peu où on en est dans notre carrière. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait toucher hypothétiquement, ce qui fait qu'on peut se prendre un peu des, comment dirais-je, des petits coups de déprime quand même, hein, voilà. Ou alors s'apercevoir que finalement, bah, on va partir peut-être correctement. En tout cas, là, quelle que soit la raison pour laquelle vous serez dans la rue, elles vont tous vers évidemment donc la lutte contre cette réforme, en sachant qu'effectivement il y a ces 43 annuités qui sont là, hein, mais qu'on aimerait bien faire baisser quand même, ce départ minimal de 64 ans, il y a le montant des retraites, et puis effectivement il y a tout un tas de niches sur lesquelles Monsieur Macron avait dit, hein, il voulait casser les différents systèmes de retraite pour avoir plus qu'un seul et unique régime. Mettre tout le monde dedans, ça c'est son grand, c'était sa grande idée. Il a dit, hein, à l'époque, qu'en fait il ne toucherait pas, hein, sa dotation, ce qui est sa retraite, hein, en tant que président. Ils nous ont fait cadeau, il paraît, à la République. C'est bien, parce que
c'est les riches qui peuvent faire ça.
Voilà, exactement. En même temps, je vois pas pourquoi ils gêneraient, parce que d'autres ne se sont pas gênés. Pour rappel, donc, en 93, on a Balladur qui fait une réforme qui concerne que le privé. Hein. Et à ce moment-là, il y a un livre blanc sur les retraites qui est publié. Il va s'appuyer sur ce livre blanc, qui déjà stigmatise les travailleurs et les travailleuses. Et on a une augmentation du nombre de trimestres qui passe de 150 à 160. Il y a une réforme, hein, qui est mise en place progressivement sur 10 ans. Il y a le niveau de pension qui est désormais calculé à ce moment-là sur les 25 meilleures années de salaire et non plus sur les 10 dernières années. Donc il y a des choses comme ça déjà qui apparaissent, hein, sous Balladur en 93. Il y a l'indexation des pensions sur l'inflation, plus sur les salaires. Enfin, et puis il y a la création d'un fonds de solidarité vieillesse. Ensuite... on a Juppé qui en 95 va tenter une réforme du secteur public et il va se prendre la réforme dans sa tronche, puisqu'il y a 3 semaines de grève à l'époque, il faut ça peut-être s'en souvenir, hein, et les entreprises du public, RATP, SNCF, EDF, ainsi de suite, vont s'opposer, hein, les travailleurs et les travailleuses, très durement à cette réforme proposée par Juppé, Alain, je vous rappelle, monsieur Alain Juppé, et donc bah, il va devoir faire marche arrière. Et puis ensuite, on a en 99-2000 Jospin qui va créer ce fameux fonds de réserve des retraites, dont on parle aujourd'hui parce qu'il y a un peu quand même quelques milliards dessus, malgré tout, qui est censé être là pour les coups durs, donc on l'attend, les coups durs. Et puis il y a la création du conseil d'orientation des retraites, qui est là normalement aussi pour aiguiller, en toute transparence, les prochaines réformes. Et en 2003, on a Fillon qui fait une tentative donc de rapprochement des retraites entre le secteur public et privé. Alors et là, on est dans la droite dure, hein, comme Monsieur Macron aujourd'hui. Il faut se souvenir qu'à l'époque, la CFDT a quand même signé des choses. C'est là où on a commencé à vraiment sentir une tension, hein, entre syndicats et syndicalistes, parce que là, ça a été quand même de la traîtrise, hein, de la part de la CFDT. N'oublions pas. Et puis il y a encore une augmentation, hein, du nombre de trimestres qui arrive, avec les 41 années annuités, comme on dit aussi. Et tout ça fait qu'on continue à travailler plus longtemps et que ça continue à s'amplifier. On a Xavier Bertrand en 2007 qui va lui aussi, hein, c'est le ministre du Travail de Nicolas Sarkozy, il faut s'en souvenir, va tenter aussi, hein, de faire une réforme sur ces régimes spéciaux. Il veut les casser. Il y a un système de décote et surcote qui va être mis en place, hein, sur ces régimes spéciaux. Il y a des modifications, mais bon, il a encore un petit peu du mal finalement à toucher à ces régimes spéciaux qui quand même arrivent à se préserver. Hein. Et puis on a après Monsieur Woerth, qui, Eric, qui en 2010, lui aussi un ministre du Travail, met fin au principe de la retraite à 60 ans. Et donc là, bim, bam, boum, ça y est, non seulement il faut cotiser plus, mais en plus, on ne peut pas partir avant 62 ans, sauf évidemment encore les quelques exceptions qu'il va y avoir. C'est Madame Touraine, hein, en 2014, qui va mettre le compte pénibilité en place, qui sera remis en question, bien évidemment, parce que, je veux dire, c'est pas si simple. Il faut noter qu'en 2012, il y a Monsieur Hérault, Jean-Marc Hérault, Premier ministre, qui voudrait revenir, qui propose un moment un retour à 60 ans à la retraite. Bon. Ben non, on est toujours à 62, hein, là, quand même. En 2022. Et donc, là, on nous promet maintenant, en 2023, un départ à 64 ans. Ça change beaucoup de choses, hein, 2 années de travail en plus. D'autant plus que, il faut partir avec son pognon. Et que si vous faites des petits essais, comme moi, vous allez vous apercevoir que non seulement vous n'êtes pas prêt de partir à la retraite, mais qu'en plus vous allez partir avec pas grand chose, parce qu'on a ce que les gens appellent les accidents de la vie, mais en vrai il y a simplement du chômage qui ramène pas grand chose en cotisation, hein, même si aujourd'hui effectivement ça fait partie des calculs des trimestres. On a la maladie aussi qui peut arriver, et puis vous avez des études longues aussi qui peuvent faire que vous travaillez plus tard. Et puis on a des femmes qui se sont mis aussi, même sur les générations pas si vieilles que ça, hein, celles qui ont encore 50 ans, qui sont restées à la maison pour élever les enfants avec un mari qui pouvait bien gagner la vie, par exemple. Mais à un moment, qu'est-ce qui se passe? Il y a des divorces, des séparations, il faut aller travailler. Mais du coup, on rentre dans une vie active assez tardive. Et il y a plein de cas de figure comme ça qui font que on ne part pas tout de suite, et certainement pas avec tout notre argent.
Et que globalement, très peu de gens partiront avec des retraites pleines, parce que s'il faut cotiser un nombre d'années très important, et puis que vous commencez à travailler vers 24-25 ans, et que vous avez quand même quelques périodes de chômage, que c'est quand même le lot de beaucoup de gens, aujourd'hui, vous n'aurez jamais votre taux plein. Et c'est bien le but, hein, c'est que on vous fait miroiter des chiffres, mais en fait, vous n'arriverez jamais à avoir votre vraie retraite.
Alors, il y a des gens qui arrivent, hein, je vous rassure. Hein,
oui, oui. Voilà. Ça sera de moins en moins vrai, en fait, puisque les périodes... où on change d'entreprise, où il y a des périodes de break, etc., elles existaient beaucoup moins avant.
Oui, et puis il y a de retour une précarité de l'emploi, hein, qui fait que vous passez d'un emploi à un autre, et effectivement, alors, comme en même temps on casse le chômage, ça vous incite pas à vous mettre au chômage le temps de retrouver correctement un travail, hein, en tout cas de qualité, et qui rapporte un peu plus que peut-être des emplois de pauvres et de précaires. En tout cas, un truc que M. Macron il a réussi à faire, c'est à unir les syndicalistes, tous. Toutes les organisations se sont donc unies pour ce jeudi 19 janvier. Alors, rien n'est simple, hein, bien évidemment, d'autant plus qu'il y a les partis politiques derrière. On sait que les Verts, par exemple, ont dit que pour eux, c'était important d'être derrière les syndicalistes lors de cette manifestation. Mais c'est pas le cas de la France Insoumise, en tout cas de M. Mélenchon, qui a maintenu son rendez-vous du 21 janvier, un peu à part. J'espère que pour la France Insoumise, ça sera une réussite à Paris, sinon c'est un petit peu dommage. Alors les organisations de jeunesse, comme on dit, étudiantes, ont appelé aussi, hein, ce 21 janvier, donc peut-être qu'évidemment ça peut faire une deuxième journée de mobilisation assez belle, en tout cas sur Paris. Mais c'est vrai que ça a permis ça. Alors évidemment, du côté du Parti Socialiste, on a eu quand même aussi... quelques personnes, Monsieur Rocard par exemple, hein, avait aussi été pour un durcissement, par exemple, des conditions d'accès à la retraite. On se fait un peu petit quand même, parce que même si après, là, sur les dernières élections, on a dit nous, on veut maintenir le 62 ans, c'est pas si simple. Mais bon, voilà, on a des partis qui sont pas tous d'accord entre le 60 et le 62 ans, par exemple, sur le nombre d'années de cotisation qu'il nous faudrait. Et puis, chez les syndicats, on sait qu'on entend beaucoup parler, par exemple, il faudrait maintenir absolument les conditions, c'est vrai, hein, d'accès à une retraite tôt pour les gens qui ont des conditions de travail difficiles. Mais on a l'impression que du coup on sectorise et qu'on découpe un petit peu les différentes corporations, parce qu'il faudra en protéger certaines et pas d'autres, ce qui est vraiment une erreur fondamentale. Il faudrait tous et toutes qu'on puisse partir à 60 ans et avoir une deuxième vie, une troisième vie. On a la jeunesse, le travail et puis la retraite longue. Voilà, et puis on est aussi des consommateurs et des consommatrices. On sait qu'on peut aussi rapporter de l'argent, donc il faut des retraites qui puissent aussi soutenir l'économie dans un système libéral, bien évidemment, hein, parce que sinon nous on va en penser un petit peu autre chose de tout ça. En tout cas, là, il a quand même réussi ça, hein, Macron, à unir toute cette gauche. Donc on espère que la gauche sera dans la rue. On suit attentivement les propos du Rassemblement National, qui a une bien classe idée, hein, pour augmenter notre pouvoir d'achat. C'est de baisser nos cotisations salariales, aussi baisser les patronales, parce qu'il faudrait quand même pas déconner, pour qu'on puisse toucher plus d'argent. Le problème, c'est que si on baisse les cotisations, il y a un moment, comment on va payer les retraites? Puisqu'il y a quand même des gens qui disent qu'il suffirait d'augmenter un petit peu des cotisations retraites, ça pourrait aussi faire rentrer de l'argent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas d'urgence. Parce que de toute façon, il y a un déficit.
Non, et puis voilà. Pour augmenter les cotisations retraite, on n'est pas obligé d'augmenter les cotisations de tout le monde. Il suffit d'augmenter, de rééquilibrer le salaire homme-femme, par exemple, puisque les femmes sont payées 20% moins que les hommes en moyenne, bien évidemment, c'est une moyenne. Bah, si on augmente, si on remet les femmes au niveau des hommes, bah, ça fait rentrer 20% de cotises en plus, hein, c'est sur les salaires des femmes, c'est déjà pas mal. Si on oblige les entreprises ou les empêche de virer les vieux à partir de 55 ans, parce qu'ils coûtent trop cher, etc., peut-être qu'ils seront obligés de les garder, donc de les payer, c'est-à-dire à des salaires plus élevés, et donc de faire entrer plus de cotises. Voilà, il y a plein de raisons, manières de faire.
Arrêtez de faire des cadeaux aux entreprises en baissant les cotisations.
Et il y a plein de salaires qui sont exonérés ou qui ont des... exonérés ou au moins diminués de cotisations sociales. Bah, ça, il faut que ça vire, parce que c'est tout l'État qui paye. C'est pas logique non plus. Donc voilà, effectivement, il y a plein de pistes, il y a plein de manières de faire, autre que celle de faire porter tout le poids des réformes sur le dos des salariés.
Enfin voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine dans la rue le 19.
On n'a pas le lieu et l'heure encore, c'est trop tôt.
Non mais là j'ai même pas regardé, je t'avoue.
J'ai cherché, j'ai pas trouvé.
Il faut quand même que aussi les gens puissent s'organiser, même si on sait que ça fait un petit moment que évidemment les organisations syndicales attendaient ces annonces pour pouvoir se mettre en marche dans la rue. Donc pour dire qu'aussi de l'autre côté de la Manche, on a un premier ministre britannique qui se retrouve face à des mouvements de grève extrêmement sérieux. Hein, on a les conducteurs de bus, de train, on a des médecins, des enseignants, donc des mouvements sociaux extrêmement importants et qui nous rappellent ce qui s'était passé sous Madame Thatcher. Et en fait, il a un peu la même réaction, c'est-à-dire qu'il bouge pas, ce nouveau Premier ministre, qui est pas là quand même depuis si longtemps, Rishi Sunak. Il a même décidé de faire, de mettre en place ce qui est baptisé là-bas, mais comme chez nous, hein, une loi anti-grève, c'est-à-dire de créer du service minimum avec une obligation donc de présence pour les travailleurs et les travailleuses, ce qui est évidemment une manière de casser les grèves actuelles et puis de soi-disant arrêter. Encore une fois, nous avons ce mot qui revient, de prendre les gens en otage, hein, parce que du coup, quand tu n'as pas de bus, bah, tu es pris en otage. Donc, il y a vraiment une réaction qui est forte et qui dure dans le temps au Royaume-Uni et qu'on n'avait vraiment pas vu ça depuis les années 80. C'est assez exceptionnel ce qui est en train de se passer et les syndicats ne lâchent rien, mais du coup Monsieur Sunak non plus. Voilà, il faut dire qu'il y a une inflation à deux chiffres là-bas, donc voilà, c'est assez important. Ça lâche rien, peut-être que ce serait beau, hein, non, que tout le monde soit en grève le 19 janvier, non? Oui, il faut savoir qu'il y a des grèves là-bas le 19 et le 20 janvier, hein, de l'autre côté de la Manche, donc peut-être qu'on peut aussi s'envoyer des petits messages pour se soutenir, être dans la solidarité internationale.
D'accord. Et c'est à moi, et on va faire un petit trajet, on va sortir pour aller sortir de ce coin de l'Europe, pour même presque sortir de l'Europe, pour aller du côté de l'Arménie et... du Haut-Karabakh. On va commencer par un petit rappel historique en forme de préambule pour parler de ce fameux Haut-Karabakh. On va retourner en avril 92, au plus fort de ce qui est appelé la première guerre du Karabakh, du Haut-Karabakh, où la communauté arménienne était totalement assiégée par les militaires d'Azerbaïdjan. C'était donc en avril 92, avant que les forces arméniennes ne reprennent l'initiative, ne repassent à l'attaque et ne reprennent le contrôle de cette fameuse route qui existe entre l'Arménie et le Haut-Karabakh, route qui s'appelle le corridor de la Chine. Donc là, quand ils l'ont repris à l'époque, on était en juin 92, le siège avait pu donc être brisé et les Arméniens du Haut-Karabakh retrouvaient un lien direct avec l'Arménie. La guerre qui a suivi au cours des deux années suivantes avait donné lieu à des massacres mutuels, un nettoyage ethnique des deux côtés, la mort de milliers de jeunes soldats des deux côtés aussi, pour finalement aboutir à une victoire militaire de l'Arménie et un cessez-le-feu en mai 94, la paix ne fut jamais signée, le conflit ne fut jamais réglé, les deux pays étant quand même restés sur leur position, et les deux pays ont sont sortis de ce conflit les mains pleines de sang. Mais depuis le 12 décembre de l'année dernière, donc il y a à peu près un mois maintenant, même il y a très exactement un mois, les Arméniens du Haut-Karabakh sont à nouveau confrontés au même problème. Les autorités azerbaïdjanaises ont fermé la route de la Chine. En fait, la route est bloquée par des personnes, des militants, des activistes, on ne sait pas qui c'est, qui ont pris un prétexte d'activité écologique, ce qui fait, qui nous fait doucement marrer, pour dire que au Karabakh, ils font des trucs pas bien en termes d'écologie, donc on bloque la route. Bon, en fait, tout le monde a bien compris que c'était des agents ou des gens proches du gouvernement d'Azerbaïdjan qui sont allés bloquer, fermer cette route et empêcher les 120 000 habitants du Haut-Karabakh d'être ravitaillés. En partie, ils sont autonomes sur quand même des choses, mais pas totalement. Et donc, ça a coupé le lien avec l'Arménie. Alors, pour rappel, donc la guerre du Haut-Karabakh, la deuxième, a eu lieu en 2020. Donc c'est l'Azerbaïdjan qui attaque pendant 44 jours et qui gagne cette fois contre le Haut-Karabakh et contre l'Arménie. C'est le leader Ilham Aliyev qui est dans une guerre pas que simplement de territoire. Alors certes, il dit, alors pour lui l'Arménie et le Haut-Karabakh, c'est l'Azerbaïdjan occidental. Donc lui, il est dans une sorte de guerre néocoloniale. Il veut virer tous les Arméniens du Haut-Karabakh, voire plus loin. Alors, il y a un conflit comme ça ethnique qui est des deux côtés, hein, parce que l'Arménie fait pas beaucoup mieux, sauf que là, elle a perdu. Hein, donc, on en parle parce qu'on a pas mal de communautés arméniennes dans nos pays. Mais on n'en parle pas tant que ça, puisque ils sont quand même, ça fait un mois qu'ils sont quand même coupés du monde, et ça fait pas vraiment la une de nos journaux, ce qui est assez surprenant, puisqu'en général, la diaspora arménienne est assez forte hein, en termes de militants pour essayer de se faire entendre. Et là, je sais pas pourquoi ils y sont pas arrivés. Donc on a une situation qui est quand même un petit peu catastrophique, à peu près ouais, 120 000 Arméniens qui habitent cette république autoproclamée, un truc un peu bizarre hein, quand même. Alors on rappelle quand même que normalement, c'est les Russes qui sont censés avoir fait une sorte de paix depuis la victoire de l'Azerbaïdjan et de cette deuxième guerre en 2020. Et c'est la Russie qui s'était proposée d'envoyer des soldats, une force de paix. Et en fait, il y a bien des soldats russes qui sont là en force de paix et qui devraient faire que la situation reste stable. Or, ils laissent faire la coupure par ces Azéris. Donc il y a beaucoup de doutes hein, qui sont mis en avant. Mais que fait la Russie là-bas? Alors, on ne sait pas bien hein, ce que fait la Russie. On ne sait pas bien. Hein. C'est un peu compliqué pour la Russie. Faut dire que jusqu'à maintenant, on ne sait pas dans quel camp elle était, hein, la Russie. Mais elle avait quand même montré qu'elle était prête à soutenir l'Arménie et les Arméniens du Haut-Karabakh. Donc, elle avait envoyé cette force et ça avait rassuré. D'ailleurs, vu d'Arménie, la Russie était apparue comme un peu le sauveur de la situation. Deux ans plus tard, qu'est-ce qui se passe? Deux ans plus tard, l'Arménie est victime de la guerre en Ukraine, quelque part. En tout cas, c'est ce qu'on imagine tous, puisque suite à l'attaque, à l'agression, à l'invasion russe en Ukraine, la situation a changé. L'Azerbaïdjan est une des portes de sortie du pétrole et du gaz russe, discrètement, qui permet de le réintégrer sur le marché européen. Ça triche à mort, et tout le monde le sait, et tout le monde fait semblant, bien évidemment. Et du coup, l'Azerbaïdjan, il ne faut pas non plus l'embêter. Donc, la Russie semble laisser faire. Alors, ça semble la raison évidente. On n'a pas de raison officielle, puisque la Russie n'a rien dit là-dessus. Bon, la majorité de ses militaires sont en train d'essayer de tuer tous les Ukrainiens, donc ils sont occupés ailleurs, mais ça semble quand même ça. Alors, il y a aussi des critiques en interne en Arménie. Parce que le gouvernement ben il est pas top top. En fait, il y a un journal par exemple qui s'appelle Golos Armeni qui accuse pas mal le premier ministre arménien qui s'appelle Nikol Pachinian. Qui arrive au pouvoir en 2018 et qui est qui a mis en œuvre une politique quand même pas mal pro-turque et un peu anti-russe. Et ça a amené des complications au début. Il y a eu la guerre et ensuite on s'est dit bah il va changer de comportement et en fait, il fait pas grand-chose. Il est de son côté. Alors là, bien évidemment, il a envoyé un appel à la communauté internationale en demandant qu'il y ait une mission d'enquête sur le Haut-Karabakh, sur le corridor de la Chine pour essayer de le libérer. Mais en fait, on le sent un peu inactif. Et c'est les critiques qui apparaissent dans les journaux arméniens et la population arménienne. C'est que bon, il n'est pas à la hauteur de la situation. Et la situation reste très compliquée. Donc voilà où on en est. Il y a une hypocrisie un peu de partout, de la part des Occidentaux qui, finalement, n'en parlent pas. Et là, il y a une vraie hypocrisie. Alors, la raison pourrait être que les Occidentaux ont été gênés par la présence des Russes qui ont mis cette pseudo-force de paix dans cette région-là. Et maintenant que les Russes ont attaqué l'Ukraine, et ben l'Union européenne notamment, et les pays autour, et ben ils seraient bien contents que les Russes se barrent. Donc, ça laisse un peu faire comme ça. En fait, là, l'Arménie est en train d'être victime de la réelle politique. Les Russes sont les méchants. Si l'Azerbaïdjan fait ce qu'il veut, les Russes vont se barrer et que les Russes se barrent, ça arrangera tout le monde. Et c'est les Arméniens qui vont en prendre plein la gueule. Donc, il y a cette situation qui est liée quand même beaucoup à la guerre en Ukraine. Grosso modo, actuellement, personne ne prend en main le problème, ni l'Union européenne, ni la Russie, qui sont les deux pays qui pourraient faire des choses, c'est-à-dire obliger à une conférence de paix, un accord de paix, travailler sur le vivre ensemble, etc. Sauf que bon, les Russes, le vivre ensemble, on a compris qu'ils voulaient pas, hein, ça marche plus, ils attaquent tout ce qu'ils peuvent. Et du côté de l'Union européenne, on est hypocrite. Donc voilà la situation. Donc ça fait quand même un mois complet que cette région au sein de l'Azerbaïdjan, qui s'appelle le Haut-Karabakh, qui est habité par des Arméniens, est isolée et coupée du monde.
Alors on va reparler, c'est très agaçant de ne pas avoir ma voix, du Pérou et de ce qui s'y passe, parce que les choses continuent à être très inquiétantes. On a appris que la procureure Patricia Benavides a décidé d'ouvrir une enquête préliminaire contre Madame la Présidente Dina Boluarte, le Président du Conseil des Ministres Alberto Torola, le Ministre de l'Intérieur Victor Horas, le Ministre de la Défense Roger Chavez, je vais y arriver. Et puis, ça concerne aussi cette enquête, l'ex-président du Conseil des ministres et l'ex-ministre de l'Intérieur, qui tous deux ont fait partie du gouvernement donc de Madame Boluarte du 7 au 21 décembre. C'est une enquête qui s'intéresse aux manifestations des mois de décembre 2022 et de janvier 2023 pour plusieurs régions du Pérou. Et elle ouvre pas une enquête pour rien, hein, puisqu'elle ouvre une enquête pour génocide. Donc c'est sérieux. Mais ça met la justice aussi hein, dans cette instabilité qui est en train de rester hein, au Pérou. Et voilà, Madame Boluarte est absolument détestée a priori par tout le monde maintenant. Alors, il faut dire que quand même, il y a 40 morts. Hein. Plus de 600 blessés. Il y a eu lundi dans la région de Puno 18 morts et 100 blessés. Alors cette région c'est le centre des protestations actuellement, en tout cas là c'est ces derniers jours. C'est une région du peuple amérindien Aymara. C'est à la frontière avec la Bolivie et puis le lac Titicaca, si ça vous donne un petit peu une idée ou pas d'ailleurs. Et là il y a une grève illimitée depuis le 4 janvier dernier, et lundi il y a depuis mardi un couvre-feu, et lundi donc il y a eu des affrontements extrêmement importants, donc je vous disais 18 morts, hein, plus de 100 blessés. Ce qu'on sait de cette journée de lundi, tout est allé très très vite, et on a donc ces manifestants, ces manifestantes, ils étaient près de 9000, excusez-moi, qui se sont rendus sur l'aéroport, hein, qui ont essayé de prendre l'aéroport. Là, on a les forces de l'ordre qui sont intervenues, pour ce qu'on en sait, sans distinction aucune, entre des manifestants, des manifestantes, et les soignants et les journalistes. Donc on a des soignants et des soignantes qui étaient là pour essayer de s'occuper, hein, des blessés, hein, et qui se sont fait... tiré dessus par ces forces de l'ordre. On a des journalistes qui étaient blessés. On a aujourd'hui une police et une armée qui répriment extrêmement... c'est brutal et c'est douloureux pour les populations, hein, quand même. On a aujourd'hui l'ONU qui s'inquiète de ce qui est en train de s'y passer. On n'a pas l'impression que l'Europe, finalement, c'est loin, hein, oui. Vous allez me dire, hein, chacun sa merde, c'est un peu ça, hein, des fois, hein, qu'on a un peu l'impression au niveau international. Il y a la Commission interaméricaine des droits de l'homme qui est arrivée hier, hein, dans le pays, pour justement se questionner sur les violences des forces de l'ordre. Donc voilà, ça s'améliore pas. Au Pérou. C'était juste pour vous dire ça.
Alors je vais faire une rubrique énergie et environnement.
S'il t'en prie.
On va parler des industries fossiles un petit peu, puisqu'on les voit se mobiliser beaucoup en termes de marketing pour essayer de montrer une image positive de ces industries. Hein. On les voit dans les événements sportifs, dans les soutiennent des universités, dans le milieu des arts, de la culture. Donc cette industrie des énergies fossiles injecte donc pas mal d'argent dans des choses positives qui tiennent à cœur aux gens, aux populations, avec comme objectif, bien évidemment, d'éviter d'être tenu responsable des dérèglements climatiques. Et dans cette logique-là, on a appris aujourd'hui que Sultan Ahmed Al-Jaber, le ministre émirati de l'industrie, qui est aussi le patron de la compagnie pétrolière nationale des Émirats Arabes Unis, a été nommé à la tête de la conférence sur le climat, donc la fameuse COP28, la prochaine, que les Émirats Arabes Unis organisent donc fin 2023. Donc là, c'est la victoire totale. Je pense que dans les rêves les plus fous, l'industrie pétrolière n'avait pas imaginé à arriver à un tel succès. C'est-à-dire, eux, l'industrie pétrolière, en collaboration avec celles et ceux qui achètent du pétrole, sont les principaux responsables des dérèglements climatiques. Et c'est eux qui sont à la tête de la principale réunion, conférence, pour essayer de mettre en œuvre des solutions contre ces dérèglements climatiques. Et on l'a bien vu déjà sur la COP28, comme ils sont présents, eh ben ils empêchent toute décision réelle et efficace. Et là, c'est bravo, ils ont gagné, je pense. C'est la plus grosse victoire, je pense, depuis une vingtaine d'années de ces gens, de cette industrie, ces industries destructrices, puisqu'ils arrivent à faire croire qu'ils sont écolos. Voilà, bravo. Alors, on peut donner d'autres exemples. Hein. Total Energy, par exemple. Qui est l'entreprise française, je crois, qui émet le plus de gaz à effet de serre, avec la collaboration de celles et ceux qui achètent, hein, du pétrole, bien évidemment, ils le font pas tout seuls. Ils sponsorisent la Coupe du Monde de rugby, par exemple, l'année prochaine. Ah, ça va faire classe. Aramco, une autre entreprise du genre, eux, ils s'occupent de la réserve naturelle espagnole qui s'appelle la Laguna del Hito, qui s'occupe de conserver les espèces d'oiseaux. Oh, on associe notre nom à des petits oiseaux qu'on va sauver. Chevron, autre compagnie pétrolière. Eux, ils ont un gros projet social au Brésil. BP, ils font des dons au British Museum de Londres. Voilà comment redorer son image. Alors, les parrainages de ces industries destructrices se retrouvent, du coup, au cœur des négociations internationales du climat. Alors, je viens de le dire avec ce qui vient de se passer à la tête de la COP28, mais si on recule de quelques mois, Hassan Alam, c'est une société privée égyptienne dont la mission est, je cite, de transformer le pays, donc l'Égypte, en une plaque tournante régionale pour le gaz naturel. Hein, gaz naturel, c'est du gaz à effet de serre. Et ben, c'était l'un des sponsors de la COP27, de celle d'avant. Bon voilà, on marchait déjà sur la tête l'année dernière, on continue de marcher sur la tête cette année. Alors, C'est pas nouveau. Ça fait plusieurs décennies que l'industrie des combustibles fossiles essaye de montrer une image différente de la réalité. Alors, elle utilise son argent, donc pour, comme je l'ai dit, pour des événements ou des choses positives qui ont un impact positif dans l'opinion et puis qui font pression. Enfin voilà, il y a plein d'agences du coup qui les conseillent, qui leur disent "Non, faut que vous alliez là-dedans." Voilà, Shell aux Pays-Bas, toi, fait pas mal de choses pour les festivals, même un partenariat d'un musée pour les enfants. Vous imaginez un des principaux destructeurs de la planète qui... Ah mais non, il est gentil, il aide les petits-enfants dans une école. Donc voilà où on en est en 2023 encore, alors qu'on sait qui sont les responsables principaux des dérèglements climatiques. Et il y avait même une étude en 2021 par des chercheurs néerlandais qui avait révélé que les sociétés pétrolières et gazières qui avaient révélé toute la mécanique pour utiliser le parrainage des musées notamment, pour non seulement redorer leur image, mais en plus discrètement intervenir dans certaines expos, notamment quand elles étaient sur l'énergie, pour glisser quand même des petits trucs pour atténuer les effets. Bref, de la propagande à tous les étages. Voilà. Et l'étude néerlandaise avait montré que, avec des sommes relativement peu importantes, ils arrivaient, grâce à ces petites actions bien ciblées, à redorer leur image, en tout cas avoir une image pas négative. Et aujourd'hui, ces entreprises destructrices de l'environnement n'ont pas une image si négative que ça, grâce à tout ça. Donc là, il y a plein d'études qui ont montré ça. Voilà, je voulais en reparler parce que il y avait, voilà, le patron de l'entreprise pétrolière des Émirats Arabes Unis qui était nommé chef de la COP28. Donc vraisemblablement 2023 s'annonce aussi pourri que 2022 en termes d'écologie. On n'aura vraisemblablement pas à nouveau pas de solution réelle et efficace au sein de ces grosses instances phagocytées par l'industrie pétrolière et gazière. Alors je reste dans l'énergie, dans l'environnement, et là dans l'environnement, pas du tout dans l'énergie, puisque vous avez peut-être entendu parler, mais je voulais pas passer à côté quand même. On va parler, revenir sur la mort d'un jeune coupeur de bois. C'était le 2 décembre 2020, donc il y a un peu plus de 2 ans. Il s'appelait Morgan Keane, il avait 25 ans, il coupait du bois dans son jardin, dans la commune de Calvignac, et puis un chasseur est passé par là et l'a tué. Donc il participait à une battue pour aller tuer je ne sais quel animal, vraisemblablement des sangliers, parce que l'excuse du chasseur, c'est de dire « je l'ai confondu avec un sanglier ». Alors, imaginez un mec qui a une hache à la main, qui a posé un morceau de bois et qui est en train de le couper. Je ne sais pas quelle image il a du sanglier, le chasseur, mais moi j'ai jamais vu de sanglier faire ça. Donc, une excuse, alors peut-être que le jour baissait, bon, des excuses il en a sorti à tour de bras. Il a pris donc il a assassiné quand même quelqu'un, il a tué quelqu'un, il a pris 2 ans de prison avec sursis, interdiction de chasser à vie. Bon, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, puisqu'au moins il tuera personne derrière, il a tué quelqu'un, il n'en tuera pas d'autres, et le but c'est d'empêcher les gens de nuire, je vous rappelle. Voilà, c'est le rendu d'aujourd'hui du tribunal correctionnel de Cahors, et voilà, le directeur de la chasse, de la battue, a été condamné lui à 18 mois de prison avec sursis aussi, et un retrait de permis de chasse de 5 ans pour lui. Conclusion quand même, comme d'habitude, si vous avez envie de vous débarrasser de votre pire ennemi, vous vous déguisez en chasseur et vous le flinguez, et ensuite vous dites « Ah non, mais je l'ai confondu avec un faisan, ah non, peut-être un cerf ou un sanglier ou un lapin, je sais pas quoi. » Et la justice sera ultra clémente puisque vous prendrez 2 ans de prison avec sursis, c'est-à-dire rien. Voilà, on en est là aujourd'hui, on peut assassiner sans problème. Quand on a un fusil de chasse et qu'on a un permis de chasse, il faut le permis, si vous voulez le faire, il faut quand même s'organiser un peu, il s'est organisé le gars. Voilà. Alors dans la série écolo, et des choses un petit peu sympas, enfin que moi je trouve sympas. Une dizaine de canons à neige ont été dégradés, que dis-je, sabotés, dans la station de ski de la Clusaz. C'était en Haute-Savoie, toujours en Haute-Savoie, et c'était il y a quelques jours, dans la nuit du 6 au 7 janvier. Les méchants activistes s'en sont pris au système électrique, hydraulique, ils ont coupé tout ce qui traînait, en fait, pour essayer pour saboter les canons à neige. Alors ils l'ont fait, et ils ont médiatisé ce qu'ils ont fait en envoyant notamment un mail au site d'information Écolo Reporter, qui du coup a fait un article dessus, pour qu'on en parle un petit peu, parce que sinon on n'allait pas beaucoup en parler, et le but de ce genre d'action c'est d'en parler et de faire réagir. Voilà, d'interpeller l'État notamment sur ce qui se passe dans certaines stations comme la Clusaz, qui aujourd'hui, pour une partie, ne vivent que de cette neige artificielle créée et jetée là par ces fameux canons à neige. Et pour parler de la région de la Clusaz, il y avait eu une mobilisation et une installation d'une ZAD à un moment pour lutter contre alors les canons à neige étaient déjà là, mais ils voulaient construire un grand bassin pour garder l'eau pour pouvoir en faire de la neige l'hiver d'après. Ils s'étaient battus et la justice, c'était le tribunal administratif de Grenoble, avait donné raison aux militants et aux militantes de l'environnement en disant qu'effectivement la retenue collinaire, comme ça s'appelle, censée alimenter ces fameux canons à neige, avait été interdite. Alors les gens qui gèrent ces canons à neige, la station de la Clusaz, la mairie de la Clusaz, ont fait appel, donc c'est suspensif, mais les activistes ils se sont dit, attendez, la justice elle a condamné, même si c'est suspensif, on va quand même essayer d'empêcher que ça se mette en route, et ils sont allés faire du sabotage. Voilà. Alors, les réactions de la mairie sont normales quand on est le méchant qui veut détruire la planète. C'est nous qui sommes dans le droit, on a porté plainte, oui, bon, c'est traditionnel. Il y a une enquête lancée par les gendarmes en espérant que les activistes n'ont pas été filmés ou ne seront pas reconnus s'ils l'ont été. Alors, c'est pas la première action du genre, hein. On se rappelle qu'en décembre dernier, des canons à neige avaient été, eux aussi, dégradés dans la station des jets. Je sais pas où c'est, mais ça doit pas être loin. Et ils avaient aussi tagué des choses, pas de ski, pas de ski sans neige, ce qui paraît. Pour nous, c'est logique, pas de ski sans neige, mais vu dans le capitalisme du ski, ça n'est pas du tout logique. Donc voilà, on rappelle quand même que l'enneigement artificiel, ça consomme à peu près 4000 mètres cubes d'eau à l'hectare, hein, pour faire un hectare de neige. C'est juste énorme. Alors que on manque d'eau dans les vallées, donc si on retient l'eau dans des bassines pour la future neige de l'hiver prochain, il va manquer d'eau partout, et on manque d'eau partout en ce moment. En ce moment et depuis déjà pas mal d'années. Voilà. Si vous aimez le sabotage pour des raisons écologiques, il y a le livre mythique à avoir lu au moins une fois dans sa vie, qui s'appelle Le gang de la clé à molette, de Édouard Abbey. Ça a été écrit en 75, mais c'est toujours aussi d'actualité. Il y a même une suite, voilà. Ça donne envie de se mobiliser et de faire de l'action directe, puisque c'est l'autre nom aussi du sabotage, l'action directe. Voilà. Pratique militante de protection de l'environnement.
Et juste au cas où vous n'auriez pas suivi l'affaire, en Allemagne, donc à côté de Cologne, la police a fini par virer, il paraît qu'il y avait 1500 policiers, hein, la ZAD de Lützerath. Je vous rappelle, hein, là-bas, c'est un petit village dont les habitants tous et toutes étaient expropriés pour pouvoir agrandir une mine de charbon. Cette mine, elle fait la taille de la ville de Lyon, hein, quand même. Donc c'est énorme.
Ouais.
Et donc il y a des militants, des militantes qui s'étaient installés, hein, sur cette ZAD depuis déjà quelques temps. C'était devenu tout un symbole en Allemagne. Voilà, ils se sont fait mettre dehors hier. C'était assez impressionnant, hein, parce qu'il y avait des hélicos, il y avait des brigades canines, la police montée, des canons en haut, et puis évidemment. Des méchants avec des trucs pour taper sur les autres. Oui. Voilà, c'était juste. Il y a plein d'infos à aller voir. Et même si vous aviez jamais entendu parler de ce petit coin de défense en Allemagne, voilà, c'est en termes d'expérience, c'est assez intéressant. Alors, je voudrais revenir sur une affaire. Grâce à Politis, vous savez, ce média, c'est Guillaume Delorence qui a écrit un papier sur le compteur Linky. Il faut se souvenir le 15 décembre dernier, l'AFP a diffusé une dépêche qui s'appelait « Électricité, le relevé de compteurs payants à partir du 1er janvier pour certains clients non équipés de Linky ». Et Politis a la gentillesse de nous expliquer que tout ça, c'est pas vrai. En fait, en tout cas, c'est une information qui est tronquée puisque c'est pas la réalité. D'abord, tu paieras pas 5 euros parce que t'as pas ton compteur Linky, tu l'as refusé. Il suffira que tu fasses une relève.
Faut bien faire les relevés en fait, voilà, sur le site de d'Enedis qui ont lieu tous les 2 mois, je crois. Votre fournisseur d'électricité, en tout cas c'est le cas du mien, m'envoie des mails régulièrement. Ils ont fait un tout récemment pour bien me rappeler. Attention, c'est entre les 15 prochains jours qu'il faut relever. Et on échapperait à ça parce que le compteur Linky va être payé par ceux qui l'ont pris. Ça, c'était la surprise aussi de l'année dernière.
Donc jusqu'en 2025, en tout cas, cette facturation complémentaire ne vous sera pas appliquée si vous faites donc votre auto-relève. J'ai bien dit, comme le rappelle Politis, c'est une facturation, il ne s'agit pas d'une amende. Vous n'êtes pas hors la loi. Et c'est bien ça que cet article met en avant, c'est que en nous expliquant qu'en fait c'est une facturation, nous ne sommes pas hors la loi, le compteur Linky n'est donc pas obligatoire.
Voilà.
Et c'est tout l'intérêt de cet article, et c'est ça qui devrait être mis en avant, c'est d'arrêter de nous traiter de hors la loi parce que nous n'avons pas de Linky, parce que nous avons fait des choix en tant que consommateurs et consommatrices, hein, c'est peut-être votre cas. Donc voilà, et ça c'est important d'avoir rappelé cette notion-là, c'est qu'on n'est pas hors la loi.
Ouais. Alors je pense que quand ils ont fait l'installation du Linky, ils ont un peu merdé sur les projets de loi qui étaient associés à ça, parce qu'effectivement les tribunaux ont eu des réponses un peu différentes et pas forcément dans le sens d'Enedis, du coup. Ce qui risque d'arriver quand même, c'est que le gouvernement réagisse en faisant une loi vraiment contraignante pour obliger les gens à avoir ce compteur qui espionne. Le seul défaut du compteur, je vous rappelle, c'est pas les ondes électromagnétiques, ça joue quasiment, enfin c'est négligeable en termes de mesure, hein, quand on fait des essais et qu'on mesure, mais c'est parce que ça vous espionne. Ils savent à tout moment, grâce aux algos, ce que vous avez mis en route chez vous, si vous êtes chez vous, etc.
Alors on rappelle qu'il y a un arrêté ministériel du 22 septembre 2022 qui autorise Enedis à utiliser les compteurs Linky pour empêcher le réchauffage de l'eau des cumulus. Et ça, on s'y attendait pas forcément. On s'attendait à ce qu'effectivement ils sachent. Sois malin, hein, si tu fais pousser ta bœuf chez toi, sache que ton compteur du coup il tourne. Enfin, hein, je veux dire, c'était un placard. Hein, un peu
c'est
équipé.
Comme ça qu'ils en chauffent d'ailleurs. Hein.
Bon, c'est d'abord parce que les gens se font pécho, c'est tout, quoi. Mais c'est quand même pas si fréquent que parce que t'as un placard chez toi, tu te fais attraper. Enfin bon, il y a pas très longtemps, c'est un bailleur qui a balancé son locataire. Enfin, c'était pas la question du jour. Mais je me suis dit, quel salopard quand même. Excusez-moi pour ma vulgarité. En tout cas, ce qu'on nous a quand même vendu, c'est que le Linky, c'était bien pour nous. Parce que on allait devenir, comme dit Politis, acteur, et on allait maîtriser notre consommation. Et là, d'un seul coup, on se rend compte que, en fait, Enedis peut nous couper notre chaud de cumulus.
On va rien maîtriser du tout. C'est
voilà, donc on va rien maîtriser. Donc voilà, j'ai trouvé que cet article était très intéressant parce qu'il avait le mérite de nous repositionner sur ce Linky. Nous, voilà, vous n'êtes pas hors la loi. Si vous ne l'avez pas fait installer, ne paniquez pas. Et puis, bah, évidemment, on va voir 2025 parce que c'est tout proche. Mais en tout cas, on peut continuer à s'y opposer.
Je vais parler de l'extrême droite un petit peu, avec deux petites infos. On va d'abord aller en Italie, avec ce gouvernement de la néo-fasciste, comme ça qu'ils l'ont appelé, Meloni. C'est le nom de la dame qui gère le gouvernement italien aujourd'hui. Alors, sur les 9 derniers jours, ce gouvernement, et surtout le ministère italien de l'Intérieur de ce gouvernement, a balancé des chiffres en disant 3673 migrants sont arrivés sur nos côtes, laissant entendre, c'est horriblement important, c'est l'horreur absolue, on est envahi. Ça laisse entendre ça quand même. Hein. Donc voilà. Alors ils expliquent que les hommes et les femmes débarquent souvent, majoritairement par leurs propres moyens, une partie par les gardes-côtes qui les récupèrent, et seulement 10% de ces migrants arrivent par les bateaux d'ONG. Et pourtant, ce sont ces ONG qui subissent les principales attaques du gouvernement de Giorgia Meloni. Mais ça, c'est parce que c'est un gouvernement d'extrême droite et que c'est les méchants gauchistes qui sont responsables de tout. D'ailleurs, contre ces ONG et contre pour essayer d'embêter ces ONG qui gèrent et qui sauvent ces migrants en Méditerranée, Giorgia Meloni, l'exécutif de Giorgia Meloni, a approuvé un nouveau décret qui impose des règles très strictes aux ONG notamment, avec l'obligation de demander un port pour débarquer les migrants immédiatement après le premier sauvetage. Et ça a de l'importance, le premier sauvetage. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont... les ONG sont obligés de demander, dès qu'elles recueillent une personne. C'est le gouvernement qui va répondre et qui va leur dire vous avez droit d'aller dans tel ou tel port. Donc c'est comme ça depuis depuis quelques jours là, depuis pas longtemps. Et bizarrement, le gouvernement met des ports qui ont deux conditions, qui sont loin, le plus loin possible de la Libye et de la Sicile, et tenues, et ce sont des villes tenues par de la gauche. Alors c'est petit, c'est mesquin, c'est ridicule, mais c'est comme ça. Alors pourquoi d'abord loin de la Sicile et de la Libye? Parce que comme ça, les ONG seront moins efficaces. Elles recueillent une personne, elles sont obligées de demander, on les envoie loin, et on les éloigne des zones où il y a d'autres migrants en détresse. C'est quand même glauque. Et la deuxième raison, là, sur l'attaque des trucs politiques, là, il y a plein de villes qui sont citées, hein, des villes portuaires, et qui ont été choisies donc depuis ce décret, et c'est que des villes tenues par des mairies de centre-gauche en Italie. Alors, c'est juste ridicule. L'extrême droite italienne en est là, a essayé de faire crever les migrants méditerranéens en éloignant les bateaux de secours, et en embêtant, en mettant sous pression les villes tenues par la gauche. Voilà, c'est l'intelligence et la manière de faire de Giorgia Meloni et de ses amis néo-fascistes. Elle risque d'être confrontée à un problème, j'espère qu'elle sera confrontée à ce problème légal, puisque l'article 98 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer stipule qu'en cas de secours en mer, l'équipage doit informer les naufragés du port le plus proche. Le plus proche. Voilà, j'espère qu'il va y avoir des recours contre l'Italie et Meloni et que ça fera avancer les choses. En tout cas, c'était mesquin et ridicule. Voilà. Et puis, la bonne nouvelle quand même du jour que j'ai trouvée, on en a de temps en temps. Ça concerne Éric Zemmour, ancien candidat d'extrême droite, très ridiculisé lors de la présidentielle, et ça nous a fait plaisir. Il a donc été aujourd'hui condamné une nouvelle fois, cette fois à 4000 euros d'amende pour injure publique à caractère racial. Donc c'est le tribunal judiciaire de Paris qui l'a condamné. C'est une affaire qui date de septembre 2018. Comme d'habitude, il était sur C8. Alors il est soit sur CNews, soit sur C8 à l'époque. Sur C8. Et il s'était moqué du prénom de la chroniqueuse qui a comme prénom Absatou, si j'ai bien tout compris, et parce que je regarde pas la télé, donc j'ai pas vu le truc, et il s'était moqué d'elle parce que son prénom faisait injure à la France. Bon, parce que c'est pas un prénom chrétien, sous-entendu. Ça, on avait tous bien compris, le côté raciste. Donc voilà, il y avait eu un dépôt de plainte. Et alors, le courageux militant d'extrême droite, Éric Zemmour, ne s'est même pas présenté à l'audience. Il a laissé ses avocats bosser. Alors, le procureur avait requis bien plus, 100 jours amende à 200 euros. Donc ça fait 20 000 euros d'amende, mais malheureusement, bon, ils sont allés qu'à 4 000 euros, ce qui est déjà pas mal. Voilà. Alors c'est pas la première fois que Zemmour est condamné, notamment sur des émissions de télé. Il a déjà pris des amendes pour différentes injures, provocations à la haine et à la violence. Notamment quand il avait dit que tous les migrants étaient des voleurs, des violeurs et des assassins. Voilà, et là il avait été condamné, ce qui paraissait logique. Il avait quand même essayé de faire appel à la Cour européenne de justice, enfin la Cour européenne des droits de l'homme, en disant non, on me brime, on m'empêche de parler, ce sont des méchants les juges français. Et bien heureusement, la Cour européenne des droits de l'homme avait rappelé que ses propos visant essentiellement les musulmans étaient des propos racistes et que elle laissait faire la justice. Voilà. Il y a encore 8 procès pour le bonhomme cette année. On espère que ça sera 8 condamnations et ça nous fera plaisir, car ça nous fait plaisir quand la justice combat le racisme et la haine. Des fois elle combat pas les chasseurs assassins, mais par contre des fois elle combat celles et ceux qui sont porteurs de racisme et de haine. Voilà pour moi.
Alors je vais terminer par une information concernant les retraites et notre lutte. Il y a une pétition qui a été mise en ligne par l'intersyndicale J'espère que vous l'avez signé. L'objectif, c'est d'atteindre le minimum 200 000 signatures. C'est très marrant à rigoler. C'est très rigolo à regarder. Je vais y arriver à mettre tout ça dans le bon sens. Quand on a commencé cette émission, il y avait à peu près 152 000 signatures. Là, je la mets à jour, hein, parce que ça se met plus ou moins à jour. On en est à 158 395, 97 signatures. Donc ça grossit, c'est bien. Voilà, ça peut être aussi un geste. C'est pas toujours facile de faire grève dans certaines entreprises, hein. Il faut bien être conscient et consciente de ça. Voilà, je pense qu'il faut avoir une réalité de terrain quand même un peu. Pas toujours possible de poser un jour de congé si on peut pas faire grève, voilà. Mais en tout cas, voilà, il y a cette pétition. Bon, après c'est toujours chiant ces plateformes là, parce que par exemple, il y a une demande de don faisant suite à la signature de cette pétition n'émane pas des organisations syndicales. C'est bien précisé, mais c'est vrai que voilà, c'est un peu chiant ces plateformes, parce que bon, c'est un peu, il faut voilà, prendre un peu du pognon. Mais en tout cas, il y a voilà 158 403 personnes qui signent là pour l'instant. Donc bah peut-être que vous aussi vous pouvez aller signer, et puis que bah il y a non pas l'objectif de 200 000 bien plus qui soit obtenu pour au moins jeudi 19 janvier 2023.
Si vous voulez discuter des retraites et notamment des arguments à travailler contre ceux du gouvernement, du patronat, il y a une rencontre pour débattre, pour discuter de ça à la Plume Noire, rue Diderot. C'est samedi, on sera le 14 si ma mémoire est bonne ou si je calcule bien, et c'est à 17h. Voilà, je voulais redire ça.
Eh ben, on va vous laisser pour ce soir.
Bah, juste pour dire, si vous avez envie d'aller au cinéma, vous pouvez aller voir oui. Nostalgia, film italien très beau, triste, dur, sur quelqu'un qui retourne à Naples, qui est parti de l'Italie, quelque chose comme 40, il y a 40 ans avant. Il est allé travailler au Liban, en Égypte. Il rentre en Italie et il rentre à Naples, sa ville natale. Et Naples, c'est compliqué. La mafia est très présente. Et il y a toute une histoire autour de son passé qu'il a du mal à oublier, parce qu'il a fait des choses qui sont pas toujours... voilà, il a fait aussi des bêtises quand il était jeune, ce qui est une des raisons de son départ. Et on a un film là construit comme ça autour de l'impact de la mafia, toujours très présent, de ce qu'on peut faire contre, et de ce rapport qu'on peut avoir à son propre passé quand on avait 15 ans, qu'on fait des bêtises, et que après ça nous revient 40 ans plus tard en pleine tête.
Alors c'est un film de Mario Martonet, hein, quand même, hein, j'aime bien moi aussi citer des gens, et puis surtout on trouve Pierre Francesco Favino, absolument magnifique, hein, dans cet homme qui rentre chez lui. C'est pas tant un film sur la mafia que moi je trouve que sur la famille, l'identité, qui on est. Quelle histoire on a et comment on se construit, voilà. Donc ce départ précipité qui l'amène à quitter sa ville, sa famille, son pays et cette Italie, ben voilà, c'est aussi ça, hein, qui a construit cet homme. Il s'est construit ailleurs, autrement, très jeune, et c'est ça que nous raconte justement Nostalgie, hein, vraiment sur cette nostalgie, le retour, le fantasme qu'on a du retour aussi chez soi après des années, et puis vraiment aussi le lien avec la famille. Alors là, il y a la famille de la mafia, mais avec la famille, avec la mère, l'entourage, les proches, et puis le quartier. Hein, donc il y a toute cette histoire qui est racontée. Le film, je trouve pas tant triste qu'effectivement dur, mais il y a quelque chose de très beau dans cette histoire, dans lequel on peut aussi se reconnaître de son propre parcours et de la construction personnelle qu'on peut avoir avec voilà, l'endroit où on vit, l'endroit où on va et comment on en revient.
Voilà, et ça joue au cinéma actuellement, parce que c'est sorti il y a très peu de temps. Voilà. Nostalgia.
Vous n'êtes pas obligé d'aller voir Avatar, c'est tout ce qu'on a à dire.
Ouais.
Voilà, voilà.
Et le film n'est pas bleu, ça change. Non. Voilà, c'est.
Vous avez le droit d'aller voir Avatar, hein, c'est pas le problème, mais allez voir aussi autre chose, quoi. On vous quitte, on vous laisse. Il y a une thématique ce soir.
Alors.
Le saxophone. Attends, il arrive vers toi, voilà. Je crois.
Donc l'émission musicale dont je tairai le nom. Parce que. Ah, carte son. Ah, ça s'appelle carte son. Yes, c'est beaucoup plus facile pour moi. Donc le retour sous un nouveau nom et peut-être une nouvelle forme.
Et donc du coup voilà, donc une thématique encore ce soir. On vous souhaite une bonne émission musicale pour la suite et une bonne fin de journée. À très bientôt. Ciao.
Voilà, on vous laisse d'abord en compagnie des bandes continues, le temps qui s'installe.
Ciao, ciao. Ciao.